Bienvenue sur PFM 99.9 si vous nous rejoignez.
PFM 99.9.
Une trentaine d'émissions par semaine, beaucoup de musique en tout genre, de la littérature et des infos.
99.9 Radio PFM.
La cour des miracles. Radio PFM.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
99.9.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
La Cour des Miracles, émission de radio PFM 99.9.9.
La Cour des Miracles.
Yes.
Oui, le son étant un phénomène vibratoire issu d'une excitation volubile, on imagine aisément la diffusion de ces dites vibrations.
La Cour des Miracles.
Bienvenue sur les ondes de Radio PFM 99.9, c'est la cour des miracles spécial cinéma.
La cour des miracles.
PFM 99.9.
Alors, pour faire un bon film, il faut quoi? Il faut, c'est très simple, de l'action, du suspense, de l'aventure, de l'humour. Hein, Daniel? T'as des problèmes avec ça, toi, hein?
Une belle histoire d'amour.
Ah oui, oh, oui. Oui. Des bons dialogues. Des enfants.
Oui, des enfants.
Des animaux, de la belle musique, un message, très important, un message. Et surtout, surtout, une happy end.
Voilà.
T'es sûr que t'as rien oublié?
Non, c'est bon, hein.
Et des filles à poil?
Non. Oh putain.
Des bons acteurs.
Très bien.
Des effets spéciaux.
Bien.
Des bons gags.
Des bons gags, très bien.
Un running gag.
Excellent ça, Marcel. Un running gag.
En plus, j'en ai un.
Qui?
Mon cousin.
Quoi, il y a running gag, ton cousin?
T'inquiète.
Des animaux.
Des animaux, excellent.
Déjà dit.
Non, mais la raison, faut mettre de la zoologie quand même.
Oh non, arrête avec ton truc, ça fait chier tout le monde. On n'a jamais vu de la zoologie au cinéma.
Des filles à poil.
Déjà dit.
Des mecs à poil?
Non.
Des enfants à poil.
Tu sors.
Des vieux.
Pas con, ça.
Un running gag.
Ça fait deux fois, Marcel.
Des bons sentiments.
Des beaux sentiments.
Des références cinématographiques.
Très bien.
Et des handicapés.
Handicapés, ça roule.
Une pêche melba.
N'importe quoi.
Des beaux décolletés.
Et mon running gag.
Non, Marcel.
La cour des miracles.
Ah, voilà
enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, à big ball. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde, laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai?
Écoute-moi bien, mon petit José, tu baises les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde.
Je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à Laïa, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto.
Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been.
La vache! Moi, j'ai l'air has-been? J'en ai pour plus d'une barre de fringue sur moi. Alors va te faire mettre.
Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Bien, considère qu'on n'est plus amis, à Big Ball.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Ouais, d'accord.
C'est du général. Mais prends les bras comme ça, ça fait de la mousse!
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Mais rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague.
Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Mais c'est qui qui n'est pas là?
Ouvre-toi ta gueule, toi!
Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier.
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Nous sommes des Spartiates!
Chef, non, chef!
Combien tu mesures, deuxième pompe?
Chef, 1m75, chef!
1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça!
Merci la gueuse, tu es un laidron mais tu es bien bonne.
T'as pas vu ton pif, hein?
Callahan. Monsieur, ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an. Compris? C'est contraire à ma politique.
Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique.
L'intention? Elle restait à établir.
Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge.
Oh, Audrey Bean, ne faites plus de bêtises comme l'année dernière dans le jardin public, compris? Ça n'était pas de très bonne politique.
Oui, mais moi, quand je vois trois aliénés en toche violette poignarder un mec devant toute la foule d'un jardin public, alors je les flingue. Ça, c'est ma politique.
C'était la compagnie Shakespeare en plein air qui jouait Jules César, gros paysan inculte. Vous avez assassiné trois comédiens en pleine ascension.
C'est votre porte-photo.
J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail.
De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. les crânes, les corps. Vous leur donnez un tel brillant, je ne sais pas si c'est de l'art, mais j'adore. Je vais vous dire à quoi je pensais, ma jolie. Un jour, j'étais dans mon bain, quand soudain j'ai réalisé que j'étais prédestinée à la grandeur. Vous savez, comme les gens s'attachent à l'apparence, ceci est attrayant, cela ne l'est pas. Eh bien, j'ai balayé tout ça. Maintenant, je fais ce dont les autres rêvent. Je fais de l'art jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voyez, je suis le premier artiste assassin au monde en parfait état de marche.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas. Comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, et ben je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.
Avance et viens te battre. C'est un bon jour pour mourir.
La cour des miracles.
À l'origine, le cinéma est un spectacle, une expérience que l'on a tendance à vivre en dehors de chez soi. À la fin du 19e siècle, le cinématographe offre au monde une toute nouvelle forme de divertissement à la limite du surnaturel. Des photographies animées projetées sur de grands écrans, la plupart du temps dans des musées, des cirques, puis dans des salles prévues à cet effet. Au fur et à mesure, ces images vont finir par raconter quelque chose. Les films sont de plus en plus longs, de plus en plus ambitieux. On y rajoute des effets d'illusion, du texte, de la musique, puis des voix, de la couleur, des effets pratiques. Le tout dans un seul but, offrir l'illusion du réel. Raconter une histoire qui plaira au plus grand nombre afin qu'il se déplace en salle moyennant le prix d'un ticket. Un business rodé, extrêmement judicieux, mais qui va connaître une de ses plus grandes révolutions à la fin des années 70.
Achèterons-nous un jour en France des programmes de télévision comme on achète actuellement un disque?
Bien sûr, et toutes les firmes européennes, américaines y travaillent. Nous allons donc vous présenter la solution japonaise. Il s'agit en fait de transformer le téléviseur en lecteur d'images, la source d'images pouvant être aussi bien une station comme l'ORTF que des satellites, que des bandes que vous avez chez vous.
En 1956, le premier magnétoscope voit le jour. Il s'agit de l'APX VRX1000. Il fait la taille d'une pièce entière et coûte pas moins de 50 000 dollars. Un objet destiné à l'usage professionnel, alors qu'à la même époque, c'est le boom de la télévision aux États-Unis, et les foyers américains commencent à se remplir de cette fabuleuse invention qui diffuse toutes sortes de programmes.
Et en plus, ça roule! On va pouvoir regarder Jackie Gleason pendant qu'on mange!
Il faut attendre 1972 pour que le premier magnétoscope destiné au grand public soit commercialisé par Philips, avec le VCR, vidéo cassette recorder, qui offre à cette époque une capacité d'enregistrement de 45 minutes. Sony emboîte le pas avec le U-Matic et la Betamax en 1975, suivi par JVC en 1976 avec son vidéo home system, la VHS. On est donc à l'époque où plusieurs formats de vidéocassettes se battent pour la suprématie. Sony avec sa Betamax est un concurrent très sérieux, notamment grâce à une superbe qualité d'image. Mais le grand public veut surtout pouvoir enregistrer ses programmes favoris. Et avec ses 1 heure d'enregistrement, la Betamax ne peut que s'avouer vaincue devant la VHS de JVC, qui propose une qualité d'image moindre, mais une capacité d'enregistrement allant jusqu'à 10 heures sur certaines cassettes. C'est tout simplement imbattable, et ça permet à la VHS de devenir le leader du marché pendant plus de 20 ans. Au début des années 80, la VHS est toujours un objet de niche, qui prend malgré tout de l'ampleur grâce à deux pans du cinéma, le porno et le cinéma de genre. Le porno a fait vendre des millions de cassettes à travers le monde, car pour la première fois, les gens peuvent profiter de ce programme très spécial en toute intimité. La VHS est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à l'industrie du porno.
Alors monsieur, vous avez tout ce qu'il vous faut là ?
Oui, à peu près.
Qu'est-ce que c'est cette cassette ?
Je crois que c'est un film X.
Ah bon ? Vous en voyez souvent ?
De temps en temps, lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison pour passer un bon petit moment.
Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul.
Le cinéma de genre, lui, a fini d'être boudé grâce à la VHS. Un nombre incomparable de films méconnus se rendent disponibles au plus grand nombre grâce à l'édition vidéo. Des films que les collectionneurs s'échangent, se vendent, et surtout se louent. Parce qu'avant l'arrivée des grands studios dans la partie, la VHS est un objet très cher à l'achat. Seuls les professionnels peuvent s'en procurer et faire une plus-value grâce à la location.
Ce magnétoscope VHS possède deux têtes vidéo. Il est multisystème, PAL, SECAM, MESECAM. Il recherche automatiquement les stations et mémorise jusqu'à 45 chaînes. Grâce à son tuneur interbande et hyperbande, je peux même stocker mes chaînes câblées.
Mais qui voudrait acheter une merde pareille?
Est-ce que tu veux rire? On est à Los Angeles, j'en vends des centaines, je suis même en rupture de stock.
En 10 ans, la VHS a complètement remodelé l'industrie du cinéma et le mode de vie de la population occidentale. Un tout nouveau bien culturel avec ses propres codes, mais surtout un nouveau moyen d'avoir accès à l'art et à bas coût. L'arrivée d'Hollywood dans le business a énormément augmenté la production de VHS. Forcément, avec plus de films, il faut plus de VHS. Il ne faut pas se contenter de les louer, il faut les vendre. Les prix sont cassés, le marché de la location en prend un coup. Mais celui de la vente devient très rentable. Dans les années 90, la VHS est une mine d'or, notamment grâce à Disney qui s'est enfin décidé à entrer dans la partie. Les films d'animation de cette époque s'arrachent à la vente. Et Disney a aussi grandement aidé à faire de la VHS une norme. Les gens ne peuvent plus envisager de ne pas pouvoir regarder des films chez eux. Et pour cause. Plus de 32 millions de copies du Roi Lion sont vendues. Plus de 25 millions pour Blanche-Neige et Aladdin. Plus de 15 millions pour Cendrillon. C'est un raz-de-marée. Et comme toujours, c'est Disney qui gagne à la fin. En 1998, Titanic sera un des derniers gros succès en VHS. Car à la même époque, un nouveau format plus compact, plus simple d'utilisation et de meilleure qualité commence à prendre ses marques. Je parle bien sûr du DVD. Au début des années 2000, la transition entre la VHS et le DVD se fait de plus en plus pressante. Le DVD possède des qualités indéniables. Une meilleure qualité d'image et de son, pas de rembobinage, un meilleur stockage, un boîtier plus fin, bref, un adversaire de taille pour un combat gagné d'avance. Les studios suivent vite la tendance et laissent tomber petit à petit le format VHS. En France, le dernier film à sortir en VHS, c'est Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. La dernière VHS, elle, sortira d'usine en 2015, et le dernier magnétoscope en 2016. Le DVD, quant à lui, a aussi cédé plus ou moins sa place au Blu-ray. Sans oublier le 4K Ultra HD, qui est réservé à nous, les collectionneurs fous qui continuent à prendre du plaisir à entasser notre joli tas de boîtiers sur des étagères, qui ne cesse de se remplir, tant le cinéma a une infinité de belles choses à offrir.
La cour des miracles.
Bonjour.
Qu'entendez-vous par là? Me souhaitez-vous le bonjour ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non? Ou peut-être voulez-vous dire que vous vous sentez bien aujourd'hui en particulier? Ou tout simplement qu'aujourd'hui est une journée où il faut être bon?
Tout cela à la fois, je suppose.
Allô, allô, comment allez-vous? Il fait très beau, n'est-ce pas, aujourd'hui?
Très beau. Vous trouvez qu'il fait très beau? Je crois qu'il est clair qu'aucun de vous n'a perdu l'être cher de sa vie. C'est à croire que vous n'êtes pas du tout touché par la misère humaine et le désespoir, par la pauvreté et les criminels, cette vermine qui infeste et qui empoisonne cette ville décadente, vous réduisant à siffler de la piquette et du mauvais whisky pour engourdir la peine qui déchire le cœur et pour apaiser votre colère et supporter sans rien dire une vie terne et grise.
À Los Angeles, tout le monde veut devenir star. Tu dois être le meilleur et jamais abandonné.
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Agent Hamilton?
Oui, agent Abilene.
Laissez-moi vous montrer le bel équipement que j'ai pour vous.
C'est gentil, on est tellement isolés que d'habitude on n'a pas cette chance.
Vous êtes à l'aise avec un gros calibre?
Il y en a qui ont des avantages.
Ce bébé est l'un des spécimens les plus grands au monde.
Je ne suis pas plus impressionnée par la taille que par les performances.
Une fois chargé et armé, tout ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas trembler et de savoir viser.
Vous ne m'avez pas parlé de sa précision.
Vous ne serez pas déçu, vous verrez.
Ce sera à moi d'en juger, je crois. Et pourquoi cette arbalète?
Ça, c'est pour Karine. Et cette flèche a une charge explosive qui prend feu 3 secondes seulement après la pénétration. Et elle ne peut servir qu'une seule fois.
C'est son problème.
J'ai l'impression d'entendre ta femme.
Tu vas la fermer, ta grande gueule.
Demande-moi si elle est grosse.
T'arrêtes un peu. Alors ma femme est grosse.
Elle est si grosse que j'ai dû la rouler dans la farine pour savoir où elle mouillait.
Chérie, tu vas pas me faire de mal. Tu ferais pas ça. Enfin, chérie, sois raisonnable. Après tout, nous sommes mariés.
Considère ça comme un divorce.
Ah, c'est un homme qui a la légalité dans le sang. Si les Chinois débarquaient, ils seraient mandarins. Si les nègres prenaient le pouvoir, ils se mettraient un os dans le nez. Si les Grecs... Oui, enfin, passons.
La cour des miracles.
Caméra obscura, la chambre noire où l'illusion apparaît, où les ombres et la lumière se révèlent. Où naît cette fameuse magie du cinéma. L'émerveillement, l'ivresse qu'on a de se laisser imprégner par les images, par la zone invisible qu'elles révèlent. La magie du cinéma, une expression toute faite qui est finalement plus profonde qu'il n'y paraît. Depuis ses débuts en tant qu'attraction foraine, le cinéma a toujours entretenu des liens étroits avec la prestidigitation, qui au début du XXe siècle vivait son âge d'or. Les deux partagent un même goût pour la stupéfaction, et surtout, le même goût pour le storytelling en 3 actes. Une situation, un retournement, puis une apothéose. L'art de raconter est une forme de prestidigitation. Jouer avec les images, le hors-champ, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, dans un seul et unique but, nous retourner l'esprit. En tant que monde d'illusions, monde de trucs, le cinéma allie la technologie et la magie. Et en fait, il fait de la technologie la source de cette magie. Car la magie a toujours été, avant tout, un mot qu'on attribue à ce qu'on n'arrive pas à concevoir, science comprise. Et parfois, ce qu'on ne veut pas arriver à concevoir. Parce que notre rapport à l'illusion est ambigu, partagé entre l'envie de la vivre et celle de la casser pour la comprendre. Partagé entre l'émerveillement et la vérité. Longtemps, le monde du cinéma lui-même a eu cette aura mystérieuse. Un monde dans lequel on ne sait pas comment rentrer. Un monde dans lequel la magie opère, où des individus détiennent un savoir-faire secret. Aujourd'hui, bon, cette illusion s'est largement dissipée. On a accès à toutes les informations sur ce monde et ses techniques. Mais elle s'est peut-être décalée sur les films eux-mêmes, à mesure que les techniques numériques ont permis d'effacer le passage vers le fabriqué. L'illusion s'est infusée directement dans l'image, dans sa texture. La grande différence, c'est qu'avant, on ne savait pas comment était fait un trucage. Désormais, on ne sait plus ce qui fait l'objet du trucage. On a tous eu cette sensation tôt ou tard. Certains films nous paraissent hantés. Et pas seulement parce que face à l'écran, en regardant des instants figés du passé, on regarde littéralement des fantômes. Non, ils produisent aussi parfois un effet irréel, un décrochage, comme si quelque chose d'indescriptible débordait. Comme si quelque chose d'inaccessible et de vrai, de terriblement vrai, avait été capté. Dans le jeu, le rythme, le son... Dans une alchimie, parfois proche de la transe. Parce que cette magie, elle est peut-être beaucoup plus proche de nous qu'on ne le pense. L'occultiste Aleister Crowley faisait la différence entre l'illusion et la vraie magie en utilisant le terme « magic » avec un K. Bon, sans s'aventurer dans les paradoxes du bonhomme ou les détails de sa philosophie, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir à quel point la magie peut être vue comme quelque chose de concret et proche de nous. Pour Crowley, il s'agissait ni plus ni moins de toute action qui opère un changement dans nos esprits. Une vision plus tangible, donc, mais pas moins puissante, bien au contraire. Une création peut envoûter, altérer la conscience, changer ce qu'on perçoit du monde, et donc, le monde lui-même.
Magic, in its earliest form, is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. The very language of magic seems to be talking as much about writing or art as it is about supernatural events.
Et étant l'un des arts les plus populaires, le cinéma est un parfait véhicule pour cet envoûtement. Il s'est fractionné et infusé dans d'autres médias, d'autres écrans, à un point où il devient difficile aujourd'hui de dire ce que même le mot cinéma signifie. En matérialisant leurs rêves, leurs visions, les cinéastes deviennent en quelque sorte des chamans. Et pas uniquement les plus surréalistes, hein, qui explorent le langage de l'inconscient. Non, même au sein d'œuvres plus accessibles, certaines choses se retrouvent cachées en plein jour, comme un point d'accès vers un autre niveau de perception. La cravate de Jack Torrance dans Shining, qui annonce dès le départ le motif du labyrinthe, autant mental que physique. Le démon Valak, qui apparaît partout dans Conjuring 2. Les yeux décontaminés dans The Thing, aussi noirs que le charbon, sans qu'à aucun moment un personnage ou même le spectateur ne s'en aperçoive. La caméra de Mario Bava, qui dans le masque du démon dessine par son mouvement la fameuse lettre S qui marque les sorcières. Des détails puissants qui apparaissent dans notre angle mort, ce qui a bien sûr conduit certains à se méfier de ce pouvoir de manipulation qui peut parfois s'assimiler à une magie noire. Où est l'intention? Qui me parle? Difficile de savoir où se trouve, dans le flot des images, leur impact le plus profond. Une manière plus simple d'aborder tout ça, on peut en fait la trouver chez Tarantino. À la sortie de Kill Bill, il avait dit quelque chose d'assez révélateur. Que son film, et tant d'autres, se passe dans un pur monde de cinéma. Un monde qui obéit à ses propres règles. Comme un seul énorme univers alternatif qui s'est construit petit à petit au fil des décennies, à mesure que les films et leurs codes se sont mis à s'abreuver les uns les autres. Comme animé par sa propre volonté. Et il est là, ce monde double. Ce monde qui a beaucoup plus d'impact sur nos vies qu'on veut bien l'admettre. Un monde où l'on peut notamment voyager en cabine avec son katana, et où ça finit par nous sembler bizarrement logique. Parfaitement à sa place dans la toile de nos réalités.
Is this all real? Or is it just happening inside my head?
Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real?
Like cour des miracles.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
PFM.
Qu'est-ce qu'on cherche dans une fin? Souvent, un refuge, les codes qui rassurent, l'art qui met de l'ordre dans notre chaos. Créer une fin, c'est prendre le contrôle. Comme quand David Bowie, en mettant en scène sa mort de façon simple et déchirante dans le clip de Lazarus, devient définitivement immortel. L'aboutissement, il est là. La vérité de l'œuvre, elle est là. Dans la dernière émotion, le dernier propos, celui qu'on emportera de l'autre côté. Et prendre une fin en otage, c'est prendre toute l'œuvre en otage. N'est pas un hasard si, à l'origine, le mot apocalypse signifie révélation, celle d'une direction. Chercher une fin, c'est chercher une finalité. Quand est-ce qu'on coupe? Quand est-ce qu'on pose le point final?
I'm finished.
Instinctivement, on ressent assez souvent quand l'écran noir va arriver. On s'est habitué à un certain rythme dans le montage des films, ce rythme très fluide, hérité du Hollywood classique, qui se veut avant tout satisfaisant. Un rythme qui se calque souvent sur celui de la musique, parce qu'on aime que ça tombe droit. Tellement en fait que ces 15 dernières années, le montage rythmique est presque devenu un cliché, notamment dans les bandes-annonces. Une image et une émotion qui se synchronisent à un instant parfait, et la vibration, elle est là. Cette synchronisation, elle rassure, elle donne du sens. La coupe finale, on attend donc qu'elle arrive à un moment clé, quand on ressent la pulsation profonde d'un dernier plan, quand le moment est mûr, et qu'on a besoin de le figer avant qu'il ne s'étiole.
Okay.
Figer la vie avant qu'elle ne déçoive. Beaucoup de monteurs vous diront que le guide ultime, pour ça, bien plus que la musique, c'est le regard, son mystère, ce qu'il chuchote. Ce regard qui donne une musicalité, un rythme émotionnel, même au silence.
Now what?
Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Il est suis la seule.
Dans un récit, la perte de mémoire, c'est peut-être l'un des arcs narratifs les plus usés jusqu'à la corde, mais bizarrement aussi, un de ceux qui nous affecte le plus, parce qu'il provoque un inconfort très particulier. On peut en ressortir grandi, mais on sait que ça va être un sale moment à passer. La perte de mémoire peut symboliser tout un tas de choses, le passage du temps, tout comme devenir la cachette idéale d'un secret, mais surtout on touche à ce qui nous semble un peu trop souvent acquis, l'identité. Quand tu touches à la mémoire, tu touches à une peur qui est très étrange. Cette peur de se dire que si un souvenir n'est plus partagé avec quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qui le rend réel, finalement ? Qu'est-ce qui fait que tout ça a été réel ?
I have to believe in a world outside my own mind. I have to believe that my actions still have meaning, even if I can't remember them.
Un récit qui bascule, c'est un vertige particulier.
You maniac!
Appelez ça un twist, un retournement, ce que vous voudrez. Quand une révélation nous emporte, un mystère nous enfouit, quand les rapports de force s'inversent, quand une partie étrange de notre perception est activée. Un écho, un miroir, une inspiration. C'est vissé en nous. Parce qu'un film est ce qu'on appelle un objet temporel. Ce qui veut dire que contrairement à un tableau ou à une photographie, par exemple, il existe uniquement à travers son déroulé. Quand un film n'est pas projeté, que personne à travers le monde ne le regarde, eh ben, son dispositif existe. Ses photogrammes pris séparément, ou les données numériques qu'il compose. Mais l'œuvre en tant que telle, dans son intégrité, elle n'existe plus. Elle est hors du temps. Elle n'existe qu'à travers le souvenir qu'on en a. Et plus j'y pense, plus je trouve ça fascinant. Un film, c'est une œuvre qui s'extrait du néant, puis y rebascule. Encore, et encore, et encore. Le temps. Il est peut-être là, le passage. D'une personne à l'autre, l'estimation du temps passé devant un même film varie parfois énormément. C'est la preuve qu'on est face à une matière que le cinéma pétrit à sa guise, et dans laquelle on s'échappe tous à notre manière, très personnelle forcément. Et bien sûr, le montage est l'outil par excellence qui permet de manipuler, de distordre ce temps. Une fausse saute de bobine pour nous prendre à la gorge, comme si le film lui-même nous attaquait. Ou encore ces moments où, littéralement, le temps bégait pour accentuer l'impact d'un effet. Tout ça n'a rien d'évident. Aucun de ces exemples n'est évident. Via le montage, le temps se découpe, se recompose, se diffracte. Il devrait heurter notre perception de la réalité. Sauf que face à l'écran, ce langage de l'image nous semble bizarrement logique.
La cour des miracles.
Est-ce que tu apprécies l'humanité qu'il y a dedans ? Mon fils, c'est parce que nous sommes des êtres humains qui savent bien que tout est vivant sur la Terre. Non seulement les hommes et les animaux, mais aussi les pierres, l'eau, la terre, et aussi les choses qui viennent des hommes, comme leurs cheveux. L'homme qui a porté ses cheveux sur sa tête est maintenant chauve de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui détiens son scalp. Les choses sont comme ça et c'est la vérité. Mais les hommes blancs croient que tout est mort. La terre, l'eau, les animaux et même les gens, y compris ceux de leur propre race. Si quelque chose sur Terre essaye de vivre, les hommes blancs s'empressent de le faire mourir. C'est là qu'est toute la différence.
Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera.
Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé.
Ouais. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer.
Tu connais bien la Bible ?
Oui,
Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
Un jour mon prince viendra.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Paris est grand, vous avez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Eh, ça c'est clair!
Je peux faire une déclaration, McKay?
Oui, allez-y!
Votre bouche est trop près de votre rondelle.
À ton avis, grosse sortie ou entrée? Qu'est-ce que t'en dis?
Bah, je vois pas quelle différence ça fait.
Non? Moi si, et quand la crosse est sortie, ça fait mec qui a pas de couilles, tu psy? Il y a plus de risques quand la crosse est relevée, je trouve ça plus bandant. Et quand je tuerai cet enfoiré, je vais être fier de moi. Je vais me sentir fort.
Hasta la vista, baby.
Et comment vous comptez faire, lieutenant?
Eh bien, à mon avis, en ce moment, vous servirez plus la police en travaillant avec moi aux relations publiques.
Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un.
Jack Conrad, américain, a fait exploser un immeuble au Salvador, tuant 3 hommes. Qu'est-ce que tu faisais au Salvador?
Je me faisais bronzer.
Pourquoi t'as fait exploser cette tour?
Parce qu'elle bloquait le soleil.
Cette entrée comme si c'était le pucelage de ta sœur, ok, Tonto?
Oui, monsieur.
Crois-moi, je ne te veux aucun mal.
Qui êtes-vous?
Qui? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque.
Ça, je le vois.
De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est.
Oh, d'accord.
Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona.
Voilà!
Vois en moi l'image d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la pollution. Un seul verdict, la vengeance, une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V.
Êtes-vous une sorte de malade mental?
On écoute la bande originale du film Ghostwriter de Roman Polanski, créé par Alexandre Desplat. We'll be right back.
the pleasure.
Michael Kamen, sorti de la bande originale de ce film de science-fiction satirique de Terry Gilliam. Évidemment, vous aurez reconnu Brazil.
Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry?
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
Poupoupidou.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
Vous voulez jouer dans la cour des grands? J'envoie 300 agents chez les Pecnos. Vous le sentirez, je vous le garantis. Ils vont vous inspecter par tous les trous. Votre médecin de campagne, faudra qu'il fasse importer une tonne de pommade pour vous soulager de vos hémorroïdes.
Parce que je vais te le dire en face.
Non, rien ne t'y oblige.
Si, je peux pas te sentir. T'es qu'un flic à la manque. Le bruit que fait ta pisse en tombant dans l'urinoir, on dirait une gonzesse. Si on était dans la jungle, je te sauterais dessus. Et même si tu n'étais pas dans ma chaîne alimentaire, je serais prêt à faire un détour exprès pour te sauter dessus. Et si j'étais un lion et t'étais un thon, je nagerais jusqu'au milieu de l'océan et je te becquerais tout cru. Et je baiserais le thon qui te sert de copine.
Ok.
T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé, de merdeux, qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard!
Ça suffit de rester 21, toi tu viens avec moi.
Quel est ton seul et unique but dans cette armée?
Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur.
Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160!
N'essaie pas de me baiser, mon vieux, je te fous dans un tel état qu'il faudra déboutonner ton col pour chier.
Non, c'est parce que...
Pense même pas. Si tu le touches, et je te jure, je ne me retiendrai pas.
T'es pas une femme, t'es une salope!
Notre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Eskintela.
Elle est sûre? Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne et il a violé la fille.
Il reste une minute avant de sauter.
Alors c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler quand vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible.
Oui, je m'en doute.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
Je considère la télévision, le cinéma, la presse, le journalisme comme un des grands moyens modernes d'habilissement et de crétinisation des foules.
J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La NSA enregistre tous les coups de fil, les emails, les textos sur la Terre, les gens comme Snowden ou Assange qui nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des États-Unis. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois? Aux États-Unis, il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation. On ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel. Simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'armes. Alors réveillez-vous. L'assurance maladie, elle bénéficierait à 90% de la population américaine. Pour faire simple, tous les pays développés l'ont déjà. Et presque 50% des Américains sont contre. Parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush, Cheney et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. Nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre. Mais à cause de leur pétrole, nous ne faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush? Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice? Parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo, où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès, sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans? Il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act. Ce qui, en clair, permet la détention infinie et sans procès, américains y compris. Nous avons une crise constitutionnelle aux États-Unis. Nous avons un État voyou, un État qui viole toutes les lois internationales, qui viole la Magna Carta, charte qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice. Obama devrait être jugé pour ça et il devrait aller en prison. Les prisons, justement. Aux États-Unis, nous sommes 5% de la population mondiale et nous avons 25% de la population carcérale mondiale. Les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne. La moitié des prisonniers est enfermée pour détention de drogue et la très grande majorité est noire. Pourquoi cette situation absurde reste inchangée? Je vais vous le dire. Parce que Washington reçoit de l'argent du lobby des prisons pour que ça bouge pas. Pourquoi les pop stars, les célébrités, les courtiers, tous les gens pleins de fric qui se gavent de coke et d'exta à longueur de journée vont jamais en prison? Parce que quand vous êtes plein aux as, vous êtes au-dessus des lois. Regardez Lincoln, le film de Spielberg, et vous croirez que la guerre civile a eu lieu pour libérer les esclaves. Comme quoi le milliardaire Spielberg vous rend encore plus bête. Et ils feront en sorte de projeter le film dans les écoles, de le diffuser à la télé en boucle pour toujours. Mais la vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi. Vous regardez la télé-réalité tous les jours pour tuer le temps et vous croyez que vous êtes à la page parce que vous regardez Anderson Cooper et d'autres coquilles vides sans la moindre opinion. L'apparence est sans importance, les marques sont sans importance, les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça c'est l'opium du peuple, comme dirait Karl Marx. Je vais vous ouvrir les yeux. La constitution est un mécanisme de contrôle pour les riches. L'ordre c'est eux, ils ont fait la constitution pour protéger l'argent et les terres qu'ils ont volées. Les riches n'ont pas à craindre les lois et c'est partout dans le monde. Regarde les oligarques russes et les propriétaires allemands de l'industrie automobile, des chemins de fer, de l'industrie pharmaceutique. Ils ont tous utilisé le travail des esclaves sous Hitler. Pas vrai? Et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes. La couronne britannique. Pas vrai? Et les nantis africains, eux, ils massacrent leur propre peuple. Ils empêchent leur pays de se développer. On lèche le cul des dirigeants arabes qui viennent avec leurs pétrodollars acheter des voitures de luxe à nos entreprises américaines pendant que quotidiennement ils exécutent leurs prisonniers. Ils accordent aucun droit aux femmes, ils tuent les gays. Seulement ça, on s'en fout royalement parce qu'ils ont le pognon. Nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité. Ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles. Ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiales de leurs propres entreprises. J'ai pas raison. C'est quoi le programme ici?
Oubliez que tuer des innocents est une solution.
Franchement, est-ce que c'est pas... la solution que l'Amérique utilise aux quatre coins du monde? Avec leurs drones? Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins, Chip, pour avoir un terroriste. On paye pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes. Le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington. On a vu l'effondrement de la bulle financière. Mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'inéluctable. Dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Avec des mots, on changera rien, c'est trop tard. Ce que j'attends de vous, c'est que vous changez le monde. Et ça se fera pas tout seul, ça se fera pas pacifiquement. Nous allons devoir tuer les riches. Sortez de chez vous, prenez vos armes, allez faire sauter Washington, partez à la chasse aux milliardaires, aux patrons de banques, aux ordures, aux PDG, aux menteurs, aux gouverneurs, aux lobbyistes, aux sénateurs. Tout ça, c'est du pareil au même, il faut les pendre! Au premier arbre que vous trouverez, nous devons faire le ménage, tout rendre propre. Nous devons repartir du début. Il nous faut une nouvelle chance. Mais je peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous maintenant. Je vous remercie par avance pour votre aide.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
Radio. FM.
Aujourd'hui, le cinématographe est partout, dans toutes les villes et dans tous les esprits, et malgré sa relative jeunesse, on a déjà l'impression qu'il a toujours fait partie du paysage. Tout ou presque a déjà été dit sur le cinématographe, mais il reste pourtant une des merveilles les plus fascinantes et mystérieuses de notre époque. Si mystérieuse qu'encore aujourd'hui, il est très compliqué de lui donner une définition définitive, simplement parce que cela nécessite au préalable de répondre à une question dont la réponse paraît évidente, mais qui n'est pas tant que ça. Qui a inventé la cinématographie? Essayons donc, une bonne fois pour toutes, de régler la question. Messieurs, êtes-vous disposés?
Certainement. Plus que jamais, je reviens de la selle.
Un peu d'histoire, le terme cinématographe désignait au départ un appareil, je cite, photographique instantané pour l'obtention automatique et sans interruption d'une série de clichés analytiques, du mouvement ou autre, créé en 1892 par Léon Bouly, un inventeur français. On n'a jamais vu l'appareil en question fonctionner, mais le nom cinématographe a été racheté par les frères Lumière 3 ans plus tard, le 13 février 1895, lorsqu'ils déposent le brevet de leur spectaculaire invention. Ce qui fait qu'on peut effectivement dire que le cinématographe a été inventé par les frères Lumière en 1895, et la première projection publique a eu lieu le 28 décembre 1895, boulevard des Capucines, à Paris. Sauf que ma question n'était pas de savoir qui a inventé le cinématographe.
Si.
Non. Ma question était de savoir qui a inventé la cinématographie.
Ah.
Et oui, puisqu'il y a bien sûr une différence entre l'appareil, le cinématographe, et l'art de faire des films, la cinématographie. La question naturelle qui vient maintenant est donc, dans l'immensité des vues que nous propose le cinématographe, qu'est-ce qui relève de la cinématographie? Georges Méliès, fantastique réalisateur malheureusement tombé dans l'oubli, classifiait déjà en 1907 les différents types de vues proposées par le cinématographe. Il avait trouvé 4 catégories. Les vues de plein air, qui reproduisent les scènes de la vie usuelle, les vues scientifiques, qui reproduisent le mouvement dans le but de l'étudier, les vues à sujet composé, où les actions sont préparées, comme au théâtre, et enfin, les vues dites à transformation, ou vues fantastiques. Qui utilise des trucages. Et de ces 4 catégories, il est indéniable que l'une d'elles rencontre un succès stupéfiant et sans commune mesure avec celui des autres. Puisqu'aujourd'hui, le gros de la production cinématographique et les films qui font le plus se déplacer les foules sont des sujets composés. Il est donc légitime de considérer ces vues comme celles qui sont le plus représentatives de ce que pourrait être un art cinématographique. Il serait alors simple de trouver quelle est la date de naissance de la cinématographie. Ce serait celle de la sortie de la première vue à sujet composé. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples. Parce qu'au début du cinématographe, les vues à sujet composé se confondent régulièrement avec les vues de plein air, les deux pouvant être visuellement similaires. Par exemple, la sortie des usines lumière, que tout le monde comprend comme une vue de plein air, est en réalité une vue à sujet composé où l'action a été préparée avant d'être jouée. Et lorsque les vues à sujet composé étaient faites d'un point de vue unique, comme le simple enregistrement d'une activité théâtrale, la qualité artistique de l'œuvre ne dépendait que du sujet filmé par le cinématographe. Mais à partir de La Loupe de Grand-Maman, qui est le premier film à proposer une alternance de point de vue dans une unité de lieu, la qualité du film ne dépend plus de ce qui est montré, mais de la façon dont c'est montré. C'est-à-dire la façon dont l'espace est découpé puis recomposé dans le temps. C'est ça la spécificité de la cinématographie. C'est ça qui fait sa suprématie sur toutes les autres formes d'art, bref, c'est ce qui fait l'art cinématographique. Merci George Albert Smith, merci grand-maman, merci les amis et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau chromatographe.
PFM.
Mettez-vous bien dans la tête qu'un connard n'a jamais gagné une guerre en mourant pour son pays. On gagne une guerre en faisant ce qu'il faut pour que les pauvres connards d'en face meurent pour leur pays. On n'a pas cessé de vous dire que l'Amérique ne voulait pas se battre, qu'elle voulait rester en dehors de la guerre. Tout ça, c'est du baratin. Les Américains de tout temps ont aimé se battre. Tous les vrais Américains aiment se battre. Ils sont comme ça. Quand vous étiez des gosses, ils vous impressionnaient, vous aussi. Les champions de baseball, les champions de boxe, les grands joueurs de football. Et vous les admiriez. Les Américains aiment les vainqueurs. Les perdants chez nous, on n'en veut pas. Les Américains se battent pour gagner quel que soit le prix. Et nous ne paierons jamais assez cher pour rester des hommes libres. Quoi qu'il arrive. C'est pour ça que les Américains n'ont jamais perdu une guerre. Et c'est pour ça que jamais ils n'en perdront. Tout simplement parce que l'idée de perdre est intolérable aux Américains. Une armée, c'est une équipe. Vous devrez vivre et vous battre comme dans une équipe. Et ce qu'on vous a raconté sur l'individualisme, on s'en tape. Les pauvres petits cons qui pensent que l'individualisme est sacré peuvent tous aller se faire foutre. Ils ne savent pas plus ce que c'est qu'une bataille qu'ils ne savent ce que c'est que faire l'amour. Nous avons d'abord le meilleur équipement. Un moral à toute épreuve et nos troupes sont les meilleures du monde. Entre nous, je vous assure, j'ai vraiment pitié de ces enfants de putain contre qui on va se battre. C'est vrai, je trouve ça triste. On ne va pas se contenter de leur tirer dessus à ces petits cons. On va aussi leur faire sortir les tripes et les boyaux du ventre. Et ça vous servira à graisser les chenilles de vos tanks. Il faut qu'on leur montre ce qu'on vaut à ces salopards de Bosch. Pas de pitié.